Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
Il est 8h sur Radio Classique, permettez-moi au nom de la rédaction de vous souhaiter une très bonne année 2020.
La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
Et voici le titre du journal. Encore beaucoup de questions ce matin sur la façon dont Carlos Ghosn a fui le Japon où il était assigné à résidence. L'ex-patron de Renault-Nissan devrait s'expliquer mercredi prochain lors d'une conférence de presse à Beyrouth où il se trouve depuis le début de la semaine. Une grève record et toujours pas de sortie en vue au 29e jour de mouvement. Et alors qu'Emmanuel Macron veut un compromis rapide, la CGT n'en démord pas. Elle demande toujours le retrait de la réforme. Elle a sorti aujourd'hui de Consentement, le livre de Vanessa Springer sur sa liaison avec Gabriel Matzneff quand elle était adolescente. Dans Le Parisien, elle dénonce les dysfonctionnements des institutions et l'hypocrisie de toute une époque sur cette liaison qui fait scandale aujourd'hui. L'édito politique avec Arthur Berda. Bonjour Arthur.
Bonjour Renaud et bonne année.
Bonne année à vous. Les vœux du président ?
Les vœux du président, exactement. On en parle à 8h10.
Radio Classique.
Et le journal de 8h nous est présenté par Vincent Touraine. Bonjour Vincent.
Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous.
Le mystère plane toujours sur la façon dont Carlos Ghosn a fui le Japon.
Oui, mais l'ex-patron de Renault-Nissan devrait s'en expliquer mercredi prochain lors d'une conférence de presse à Beyrouth où il se trouve depuis le début de la semaine et où il est très discret. Pendant ce temps, à Tokyo, l'ancien domicile japonais de Carlos Ghosn est perquisitionné ce matin. Les enquêteurs cherchant des éléments pour élucider les conditions de la rocambolesque évasion de l'ex-patron de Renault-Nissan. Et ils auraient déjà plusieurs pistes, Yann Rousseau.
Pour l'instant, les autorités japonaises n'ont pas donné leur version des faits, mais il semble maintenant certain que Carlos Ghosn a bien bénéficié de l'aide de Barbouze pour se faire exfiltrer le week-end dernier de Tokyo. Pour brouiller les pistes, l'ancien patron avait organisé chez lui un petit concert de musique classique auquel il avait convié plusieurs amis. C'est ce soir-là que tout se serait joué. Deux agents se seraient mêlés aux musiciens et auraient réussi à faire sortir discrètement Carlos Ghosn de la maison en le cachant dans l'étui vide d'un large instrument de musique. Ils auraient ainsi échappé à la surveillance des caméras qui étaient placées à l'entrée de sa maison et au regard des policiers en civil qui planquaient régulièrement devant chez lui. Alors, sa famille dément cette version, mais plusieurs personnes à Tokyo affirment que c'est bien ce scénario rocambolesque qui s'est joué. Une fois embarqué dans un van, Carlos Ghosn aurait été emmené près d'Osaka pour monter à bord d'un jet privé. Là, l'équipage pourrait avoir menti sur sa destination finale. Ils auraient évoqué un vol intérieur pour éviter certains contrôles, avant de se diriger vers Istanbul en Turquie, où un autre jet de la même compagnie a pris en charge l'évadé pour le conduire à Beyrouth, où l'attendaient les siens.
Yann Rousseau, correspondant de Radio Classique à Tokyo, sur cette incroyable histoire. Et puis on l'apprend ce matin, selon la chaîne NHK, Carlos Ghosn avait deux passeports français, dont un qu'il pouvait garder sur lui, mais dans une sacoche fermée à clé, une clé conservée par ses avocats japonais, tout comme ses autres passeports. Alors fuir le Japon, un moyen radical pour Carlos Ghosn de se dérober à la justice japonaise, car une fois à Beyrouth, l'ex-PDG de Renault, qui a la triple nationalité française, brésilienne et libanaise, peut difficilement être inquiété. William Julier est avocat spécialiste des questions d'extradition.
Tant qu'il reste au Liban, il est hors d'atteinte de la justice japonaise. Le droit libanais, comme le droit français, comporte la règle de la non-extradition des nationaux. Il est protégé au Liban, sauf à ce que les Japonais émettent un mandat d'arrêt international. Cette diffusion via le canal Interpol aura pour conséquence que Carlos Ghosn lui sera impossible de voyager, de sortir du Liban, sans en tout cas prendre le risque d'être arrêté dans un pays qui ne le protégerait pas de la même manière qu'il est protégé au Liban.
L'avocat William Julier avec Éric Kuoch.
Radio Classique, 8h03, une grève record et toujours pas de sortie en vue.
Avec 29 jours au compteur, le mouvement dépasse maintenant en durée celui de 1986. Alors qu'Emmanuel Macron veut un compromis rapide, la CGT n'en démord pas. Elle demande toujours le retrait de la réforme. En attendant la reprise des négociations mardi prochain, la grève pourrait bien se durcir. Pour aujourd'hui, en tout cas, la SNCF prévoit un TGV sur 2, 5 TER sur 10, 3 Transiliens sur 10 et un Intercité sur 4. Dans le métro parisien, une seule ligne reste fermée, la 7 bis, service normal sur la 1 et la 14. Toutes les autres fonctionnent, mais très partiellement. Et certains dépôts de bus dans le nord de Paris sont bloqués par des grévistes ce matin. Alors après bientôt un mois de grève, l'impact économique est important, surtout à Paris et dans sa région. Selon nos estimations, la RATP et la SNCF, à L2, ont déjà perdu plus de 640 millions d'euros. Tous les détails de cet impact économique avec Céline Cajoulis.
La grève a déjà coûté 84 millions d'euros à la RATP et au moins 560 millions à la SNCF, à la fois à cause de l'absence de trains pour le transport des voyageurs, mais aussi pour le transport des marchandises. L'activité fret a d'ailleurs chuté de 93%. Mais c'est évidemment à Paris et en Ile-de-France que l'impact économique est le plus important. Les hôtels et restaurants enregistrent des baisses de chiffre d'affaires de respectivement 40 et 30%. Dans le commerce, les boutiques installées dans les gares ou à proximité affichent une baisse des ventes allant jusqu'à 80%. Et dans le petit commerce, la fréquentation a chuté de moitié. Autre activité très pénalisée, celui des services à la personne, avec une baisse de 40% à cause de l'impossibilité pour les salariés au contrat souvent précaire de rejoindre la capitale. Enfin, toutes les entreprises liées au spectacle souffrent également. Les ventes de billets ont chuté de moitié et l'Opéra de Paris a déjà perdu au moins 8 millions d'euros à cause de l'annulation des spectacles.
Céline Cajoulis.
Vincent, c'est aujourd'hui que sort le livre de Vanessa Springora sur sa liaison avec Gabriel Matzneff.
Le consentement, c'est son titre. Revient sur cette liaison qui fait scandale aujourd'hui. Elle n'avait à l'époque que 14 ans, lui près de 50. Un tournant dans la perception de la pédophilie dans le milieu littéraire, selon Pierre Verdrager, sociologue et auteur de L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse. On l'écoute.
Je crois que c'est un tournant et j'ai l'impression que cette fois-ci, tout le monde est disposé à se mettre à l'écoute de la parole de Vanessa Springora. Je crois que dans le monde littéraire, c'est vraiment la première fois qu'un tel tremblement de terre se produit. Dans les années 70-80, on a connu une vague qui visait, dans les milieux intellectuels, à tenter de valoriser, de donner un sens et de défendre les relations pédophiles.
Oui. Pierre Verdrager avec Rémi Pfister. L'actualité, c'est aussi Hong Kong qui vient de connaître sa première manifestation pro-démocratie de 2020. Plus d'un million de personnes sont descendues dans la rue hier. Un regain de mobilisation marqué par des affrontements avec la police. 400 manifestants ont été arrêtés. En Australie, les incendies qui font rage depuis des semaines ne connaissent pas de répit. Alors que le sud-est du pays connaît un nouveau pic de chaleur qui risque d'attiser les flammes, des villes entières sont évacuées. Les zones touristiques de la côte sont particulièrement concernés. Les vacanciers qui s'y trouvent ont 48 heures pour les quitter.
Pratiquement 8h07 sur Radio Classique. On revient en France avec cette question. Et si on se passait d'alcool, Baptiste Gabory a déjà déclaré sur cette antenne qu'il ne boirait plus une goutte tout le mois de janvier.
Eh bon, on le croit sur parole. Alors après les excès justement des fêtes de fin d'année, place à Dry January. Depuis hier, je le dis bien, January,
vous
c'est ça.
Parfaitement hein,
voilà.
Bien.
Depuis hier, certains se sont lancés ce défi. Donc pas une seule goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Un défi largement plébiscité par les médecins, tant il peut être bénéfique pour la santé. Jacques Battistoni est médecin généraliste et président de MG France, le premier syndicat de médecins généralistes.
Le fait de faire cette cure de déshabituation fait du bien, elle permet de perdre un petit peu de poids, elle améliore les paramètres biologiques de l'organisme, notamment elle fait baisser le taux de sucre dans le sang parce que l'alcool se transforme en sucre quand il va dans le sang. Ça permet de récupérer souvent un meilleur sommeil, ça améliore les fonctions digestives, on a moins de brûlures d'estomac, on a moins de douleurs gastriques. Enfin bref, ça permet de se rendre compte que finalement un certain nombre de petits mots qu'on ne sait pas trop bien à quoi attribuer sont liés à l'alcool. Et donc ça permet de perdre cette habitude que pas mal de gens ont qui est de boire un petit peu régulièrement.
Jacques Battistoni avec Lucie Coquart qui clôt donc ce premier journal de 8h de l'année 2020.
Merci Vincent, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité 8h08 sur Radio Classique. Il est né le 2 janvier 1837. Nous voulions rendre hommage au grand compositeur russe Mili Balakirev et l'un de ses airs les plus connus, Islamé. Mili Balakirev, né le 2 janvier 1837, compositeur russe qui nous a quittés en 1910. Dans un instant, l'édito politique d'Arthur Berda. Et puis, mon invité, Marie Lebec, députée des Yvelines, députée de La République En Marche, vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée nationale.